Attention, please. Attention, please. Here is a special announcement. Attention, please. Here is a special announcement. It is with very deep regret that we have to announce to you, contrary to claims made by some members of the general public, that punk is dead.
This is Samuel Weisberger bringing you a chilling expose on a violent new art form threatening the very fiber of our nation's youth, hardcore punk.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Noise & Noise, ta douze mensuelle d'hardcore punk noise assimilée et dérivée, comme tous les derniers jeudis du mois de 19h à 20h sur l'antenne primitive et en direct sur le Darknet. Ok, nous ne sommes pas le dernier jeudi du mois, mais dis-toi que moi, en 5 jeudis, donne droit à un surplus de bruit, je reviendrai même la semaine prochaine. Oh, truc de dingue! Ah, le 7 mai, disparaissait un guitariste et ingénieur du son hors norme, humble, généreux, intègre et sans grosse tête, Steve Albini, l'émission de ce soir, lui est consacrée. Ça charge. Il veut bien. Eh ben non, il veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il me fait encore? Ah, les joies de la primitive, toujours des plans sympas. Albini passe une bonne partie de son adolescence à Missoula, dans le Montana. Une adolescence solitaire et ennuyeuse, mais au cours de laquelle il découvre par la presse musicale la vague punk qui déferlait sur les États-Unis et à laquelle il porte un vif intérêt. Il commence à collectionner les disques, il s'intéresse en particulier à Suicide et aux Ramones. Et au cours de sa dernière année de lycée, après s'être accidentellement cassé une jambe, il apprend en autodidacte la basse et la guitare pendant la période d'immobilisation qui s'ensuit. Après le lycée, il s'installe à Evanston dans l'Illinois, dans la banlieue de Chicago, pour étudier le journalisme à l'université de Northwestern. Il s'immerge dans le milieu underground de la région, découvre des groupes tels que Cheap Trick ou Naked Reagan, dont il sera d'ailleurs un grand admirateur, et écrit régulièrement dans des fanzines des articles volontiers iconoclastes traitant de la scène punk naissante. Il essaie de monter un groupe, pas de succès. Il décide donc de jouer seul, à la guitare, à la basse et au chant. Aidé d'une boîte à rythme, cela donne naissance à Big Black en 82. Il est rapidement rejoint par d'autres musiciens pour devenir trio avec une formation initiale comprenant le guitariste Santiago Durango et le bassiste Jeb Pezzati, tous deux de Nickel Regan. En 85, Pezzati est remplacé par Dave Riley, qui joue sur les deux albums studio complets de Big Black, Atomizer en 86 et Song About Fucking en 87, année de la séparation de Big Black. Albanese se consacre par la suite un temps à la production discographique. Il produira notamment la même année l'album Surfer Rosa des Pixies, qui, bien que n'ayant reçu qu'un accueil discret à sa sortie, est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs disques de rock de cette période. C'est ce même disque qui a poussé des artistes comme PJ Harvey et Kurt Cobain à choisir Albany pour enregistrer un de leurs albums. La musique de Big Black défie les conventions. Ça poursuit plutôt un son abrasif, plus agressif que le punk rock contemporain. Un album majeur de la musique de Big Black étant la boîte à un élément majeur de la musique de Big Black étant la boîte à rythme. Je m'explique. Plus que d'essayer d'imiter le son d'une batterie normale, le groupe a choisi d'exploiter les particularités de son synthétique. Sur de nombreuses chansons, Albini l'a programmé pour accentuer les premiers et troisièmes temps de la mesure plutôt que les deuxièmes et quatrièmes temps, typiquement accentués dans la musique rock. Et là, arrive surtout le son de guitare du groupe, qui n'est pas non plus conventionnel. Albini, étant déterminé à éviter le son standard de la guitare rock stud, a obtenu un son claquant en utilisant des médiators en métal entaillés par des cisailles à tôle, l'encoche obligeant le médiator à frapper deux fois chaque corde, créant l'effet de deux médiators simultanés. Durango a fait remarquer « J'ai toujours pensé que notre jeu de guitare ne consistait pas tant à jouer des guitares, mais à assembler des bruits créés par des guitares. » Eh oui, lui et Albini se sont surtout respectivement présentés leurs guitares comme Vroom et Sking. On peut dire que les guitares du groupe coupent alternativement comme une machette et rectifient comme une fraise de dentiste, j'y vais demain, créant ainsi une dissonance révolutionnaire et monolithique. Pour illustrer mon propos, voici le propos et le morceau Kérosène, extrait de l'album Atomizer en 86, Big Black.
It's kerosene around, she's something to do. It's kerosene around, I'll
Après la dissolution de Big Black en 87, Albany rejoint le batteur Rehash Washam et le bassiste David Sims qui avaient déménagé à Chicago après le split de leur groupe Scratch Acid et forme Rap Man. Steve cherchait à passer à un projet musical avec un batteur live au lieu de sa boîte à rythme Roland TR-606. Selon Albany, la première tournée américaine de Rap Man a suscité des réactions négatives dans la presse et des protestations lors de plusieurs de leurs concerts uniquement à cause du nom du groupe. Rap Man, c'est le personnage principal d'une bande dessinée japonaise qu'il a découvert par l'intermédiaire d'un de ses amis. Une bande dessinée, juste un esprit total bender. Il existe tout un genre de bande dessinée au Japon avec des histoires où les femmes sont violées avec des tailles très graphiques pour une raison quelconque. Albany et le batteur Washam sont devenus en quelque sorte nubilés par cette bande dessinée et ont nommé leur nouveau groupe d'après l'anti-héros titulaire. Sims a expliqué avoir toujours eu des problèmes avec le nom, affirmant que c'était le plus grand regret musical de sa vie. Albany, lui, a exprimé ses regrets pour le nom du groupe, affirmant qu'il ne se sentait pas vraiment tenu responsable d'être dans un groupe appelé Rap Man. Il a ajouté que c'était un choix désinvolte, le qualifiant d'inadmissible et d'indéfendable. Il a même comparé cela à un mauvais tatouage. Deux disques à leur actif, sortis en 88, un EP, Bud, enregistré principalement en live, et un LP, Two Nuns on a Pack Mule. Le groupe a enregistré dans le propre studio d'Albany, attribuant souvent le crédit de production à quelqu'un nommé Flouss, qui s'est révélé plus tard être le chat d'Albany. Le dernier disque du groupe est avant leur séparation, le single instrumental en 7 pouces, Inky Bug Crack, est sorti en 89 dans le cadre du Sub Pop Pop Single Club. Les représentations du groupe, c'était souvent la cible de protestataires, évidemment, qui considéraient que le groupe ironisait ou même encourageait au viol et à la violence contre les femmes. Albany a réfuté ses critiques en les qualifiant de stupides et arguant du fait que l'idéologie punk rock allait souvent dans le sens du féminisme. Côté composition, parlons de morceaux quelquefois comme une réminiscence du plus traditionnel noise punk, d'autres fois comme du art rock singulier. Le son de Rap Man donnera d'ailleurs sa marque de renaissance au style de guitare d'Albany. Le groupe se sépare en 89 pour des raisons personnelles et non comme selon certaines rumeurs l'affirmaient à la suite d'une dispute à propos de leur nom. Albany lance alors sa carrière de producteur, il joue de la basse avec Flore avant de former Shellac. Sim se réunit avec l'ancien chanteur de Scratch Acid, Davy Ho, pour former The Jesus Lizard. En extrait Upbeat, extrait de leur LP, et l'intégralité du EP sorti sur Sub Pop, Inky Bug Crack, song number one, Rap Man. 19h24 sur l'antenne. Noise and Noise, émission spéciale consacrée à Steve Albini. On va passer au gros morceau, hein, évidemment. Parlons de Shellac à présent. Alors, Shellac, pardon. Le groupe s'est formé à Chicago en 92 dans le cadre d'une collaboration informelle entre Steve Albini et le batteur Todd Trainer. L'ancien bassiste de Knuckle Reagan, Camila Gonzalez, a participé aux premières répétitions. Il a joué d'ailleurs sur une chanson du premier single. Avant que le bassiste permanent, Bud Weston, ne le rejoigne, Weston et Albini, tous deux ingénieurs du son, préféraient un son d'enregistrement plutôt analogique, clairsemé, avec peu ou pas d'overdubbing, et étaient méticuleux quant au placement du microphone et au choix de l'équipement, un peu ce qui va faire la patte d'Albini en tant qu'ingénieur du son par la suite. Shellac a donc un son distinctif et minimaliste, basé sur des signatures rythmiques asymétriques, des rythmes plutôt répétitif, un son de guitare anguleux, des paroles surréalistes et mordantes, écrit par Albini ou par Weston. Le son caractéristique s'est souvent associé à leur enthousiasme pour des guitares vintage, Travis Bean, une marque rare d'instruments à manche en aluminium, et surtout la pédale de distorsion Interfax Amorning Percolator. Albini était surtout connu pour utiliser des plectre en cuivre. Il enroulait généralement sa sangle de guitare autour de sa taille plutôt que sur son épaule. Ça va donner des trucs un peu bizarres, justement. Le premier album Shellac, At Action Park, en référence à un parc d'attractions tristement célèbre dû à des accidents mortels, sort en 94. L'album, il est livré dans une pochette pliée, pressée à la main. La pochette intérieure, elle montre une illustration avec 4 microphones. La pochette extérieure, une illustration d'un côté d'une carte fictive d'Action Park, d'un côté et un long texte médical, réanimation après une mort apparente pour choc électrique. On est un peu dans l'humour noir, on va dire. Le texte a été trouvé dans un ancien manuel d'électronique de l'entreprise Winston. Le vinyle, il porte des inscriptions également dans le sillon des deux côtés. Fumer est aussi naturel que respirer. Il le faisait depuis avant ma naissance, ce qui est dommage, car j'aurais pu l'inventer. Signé Todd Stanford Trainer en 94. Musicalement, le bassiste Bob Weston et le batteur Todd Trainer, ils créent un espèce de cercle de groove plutôt vicieux, entêtant, trame idéal justement au jeu de guitare d'Albini qui pose ses riffs agressifs et ses textes à l'obsession plutôt continue sur le sexe, la violence et les comportements antisociaux. À noter que cet album est référence pour Christian Lumac de Wars et Mike Sullivan de Vicious Circle. En extrait, voici Crow.
To her.
jeu de basse de Bob Weston, ça me faisait penser à Michel de Tendinite. Lapin, si tu m'écoutes, je te fais des gros bisous. Le second album, Terraform, de Shellac, sort en 98 sur Touch & Go. Et là, de par la suite, tout va sortir sur Touch & Go. Je ne vais pas raconter l'historique de Touch & Go ou comment le groupe est arrivé là-bas et tout, etc. Ça serait un peu trop long. En tout cas, Terraform, le nom de l'album, ça fait référence à la transformation des écosystèmes d'autres planètes ou satellites pour leur permettre d'héberger une vie semblable à celle de la Terre. L'album sort 4 ans après At Action Park, mais pourtant il a été enregistré bien avant. Mais justement, des problèmes concernant les droits sur l'artwork, tu regarderas la pochette, du disque retarde son pressage et sa mise en vente. La pochette, en effet, elle est la reproduction d'une peinture de Shisley Bonestell, un peintre, designer, illustrateur américain surnommé le père de l'art spatial moderne, dont les peintures ont inspiré le programme spatial américain et ont été et restent influentes dans l'art et l'illustration de science-fiction. C'est un créateur pionnier de l'art astronomique aux côtés de l'astronome artiste français d'ailleurs Lucien Rudeau. Enregistré donc avant Action Park, on pourrait considérer que Terraform est moins agressif que son prédécesseur. On peut cependant certifier qu'il pose les bases de la trame musicale unique, typique et spécifique de Shellac. Pour illustrer le propos, voici Moose Peace. We'll be right back. Thousand Hearts, troisième album de Shellac, sort le 8 août 2000. La couverture est un clair hommage aux anciens boîtiers de cassettes d'enregistrement audio Ampex. Le groupe est en effet connu pour utiliser des bandes analogiques pour ses enregistrements et est fan des magnétophones Ampex. Le discours au début de l'album est une annonce que l'on entendait sur les bandes d'étalonnage du Magnetic Reference Laboratory pour magnétophone analogique. Quant au titre, il fait référence à 1000 Hz, une mesure utilisée dans l'enregistrement audio décrivant une onde sinusoïdale cyclique 1000 fois par seconde. Musicalement, tout en sonnant très Shellac, je trouve que le disque sonne très fugazien, peut-être parce que le chant y est justement plus chanté que scandé sur certains morceaux. Quoique les textes soient directs, violents, crus, tournant toujours autour d'un thème, là, le divorce d'Albini et de l'homme responsable de son cocofiage, on pourrait dire. Pour l'anecdote, c'est l'album qui a le plus influencé Jenny Beth de Savage et qui lui a donné envie de devenir bassiste. En extrait, voici Watch Song, bon, alors, morceau absolument pas du tout représentatif de l'album, mais que j'aime beaucoup. We'll be right back. Excellent Italian Greyhound, quatrième album de Shellac, sort en 2007. Le titre fait référence au lévrier italien de... Uffizi, c'est son nom, de Todd le batteur. Il apparaît d'ailleurs sur la pochette. Et comme pour Tyson Hertz, le pressage vinyle comprend une version CD non marquée et sans frais supplémentaires. Parce qu'ils ont décidé que les sorties CD et LP plus CD allaient avoir le même prix. Tout ça pour encourager les auditeurs à acheter le vinyle pour entendre le disque tel qu'il était prévu à la base au niveau son. Tendu, direct, barré, minimal, naturel, lourd, sauvage, posé ou étiré, de nombreux adjectifs viennent à l'écoute de ce quatrième album. Mais ce que l'on retient le plus, c'est l'osmose naturelle qui règne entre les musiciens, même si parfois les structures des morceaux paraissent si aléatoires, voire presque improvisées en extrait, le très rock'n'roll « Steady as she goes ».
Steady as she goes, always. She was walking down.
Le cinquième album de Shellac, Dual Incredible, sort en 2014. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Riff cinglant, corrosif, plutôt tricoté avec des mailles d'acier, rythmique lestée, retenue chirurgicale ou massacre de fût. En tout cas, les morceaux ont la structure élastique, mais solide. On y parle d'un groupe de singes parlant copudés, d'un personnage qui lutte avec ses tocs, ou encore d'ado parti faire du vélo. Enfin, on se débrouille avec ça. En extrait, voici « You Come Me ». Mars 2024, Shellac annonçait la sortie de son sixième album, Two Old Trains, 10 ans après le précédent. Faut dire qu'on l'attendait ou on ne l'espérait plus. Le disque sortait le 16 mai, entre-temps, le 7 mai, Steve Albini décédait. On perdait ainsi un guitariste, un ingénieur du son de génie, un géant modeste, un modèle d'intégrité, de gentillesse, quasiment une incongruité dans un univers où tout n'est plus que calcul et vanité lorsqu'on parle d'industrie du disque. On a tous du Albini chez nous, puisque en plus de 40 ans, il a œuvré sur plus de 2000 albums, des formations les plus obscures ou plus connues. Alors, je vais citer, j'y vais au taquet. Orge Overkill, Sling, Pixie, Jesus Lizard, Breeders, Tad, Wedding Presents, Zenny Gava, Superchunk, John Spencer, Helmet, Fugazi, Joe Breaker, Don Caballero, Nirvana, PJ Harvey, Dazzling Killman, Breeze Glass, Mel Banana, Uzeda, Screeching Weasel, Fleshtone, Sloy, Manon Rostroman, Oxbow, Tortoise, Les Tugs, The Egg, Jimmy Page et Robert Plant, Nickel Reagan, Noresis, Nine Inch Nails, Pez, Mogwai, Low, The Ghost, Godspeed, Dioniso, Chevreuil, Helmet, Mono, Gogol, Bordello, Mac Lusley, Elio Gabal, Zoo, Sono, bref, la liste est longue, très longue. Voilà. Nos et nos. Alors, j'avais prévu des extraits live et tout. En fait, j'ai pas du tout calculé. Du coup, je vais être un peu trop court. Le spécial Albini, on va finir et pour conclure avec 3 extraits de l'album Two Old Trains qui est sorti. Moi, j'ai choisi W.C. Woody et Slabby the Rat et Scrapers. C'est mes morceaux préférés qui émanent sur cet album. Un album de très bonne facture. Du Shellac, pure source, ambiance, sauce distorsionnée. Sixième album sorti, on va le dire 10 ans après le cinquième, on l'attendait et hélas, on ne verra pas des prestations live. En tout cas, j'espère qu'il est au pays des noises avec ses copains. À savourer, puisqu'hélas, voilà, ce sera le dernier. Merci pour tout, monsieur Albini. On se retrouve jeudi prochain. Eh ouais, un truc de gueulin. Jeudi en 5 mois, 2 émissions. Jeudi prochain, ça sera un spécial Italie. En attendant, porte-toi bien et pense à nourrir le chien.
man who said those things.